Alors, je remercie beaucoup nos conférenciers de ce soir, nos trois conférenciers de ce soir, pour la dernière conférence de notre cycle, que nous avons intitulée « Abus, point d'interrogation, agression, point d'exclamation, mise en contexte clinique, juridique et ecclésial ». Alors, je vais laisser les intéressés se présenter eux-mêmes, mais quand même un deux mots. Benjamin Fiorini, qui est juriste, maître de conférence à Paris 8, Damien Fouque, qui est professeur de psychologie clinique et de psychopathologie à Paris 8, c'est ça. Et puis Martine Jobé-Duval, qui est philosophe, qui est chargée de mission ecclésiale, qui est aussi membre de la fondation du cardinal Charles Journet, qui est responsable de la publication des œuvres du cardinal Journet, qui a beaucoup travaillé avec les évêques de l'Église de France sur la préparation de la commission. Vous allez en parler vous-même, la préparation de la commission sauvée. Donc vous êtes très au fait tous les trois de ces questions. Merci infiniment d'accepter de venir nous parler et de nous expliquer un peu de quoi il s'agit.
Merci tout d'abord à chacun de vous de venir ce soir. C'est quand même l'actualité internationale est gravissime. Le rapport du GIEC est accablant. Et vous venez avec beaucoup de bénévolence et de présence. Donc nous vous remercions vraiment. Écouter des propos sur un sujet sombre, dramatique, mais parfois l'histoire de l'humanité. Nous vivons cependant un moment remarquable, un moment magnifique, oserais-je dire. C'est qu'une conscience sociétale, une conscience culturelle, depuis des années, le jalon que représente le travail de la commission sauvée dans le champ de l'écosystème catholique a induit aussi un travail d'une commission sur l'inceste. Ça n'avait pas été fait depuis 2010, ce travail sur l'inceste, mais ça va être une commission sur le modèle de la commission sauvée. Donc quelque chose qui va mutualiser des efforts et permettre aussi bien aux citoyens qu'aux chrétiens d'entrer plus avant dans un équipement, cet équipement délicat de l'intime, sur ces sujets de l'intime, que sont les violences sexuelles, et se faisant la sexualité, va nous permettre d'être plus équipés pour faire une culture de la protection, de la vigilance, et une compréhension en nuance de tous ces sujets. Donc si nous avons choisi d'être ce soir, c'est précisément pour un peu illustrer ce qu'est une mutualisation des efforts, dans l'amitié certes, mais une mutualisation des efforts et des apports de nuances et de focus différents pour que les compétences se croisent et vous donnent, je l'espère, des ressources. Et nous sommes surtout ouverts à toutes vos questions sur ce qui va être évoqué, celles qui vont avoir un rapport avec ce que de dire ou être un petit peu un pied, n'hésitez surtout pas, nous sommes tous les trois, nous serons très heureux de pouvoir vous répondre. Vous savez que, comme moi, face à l'enfance, nous éprouvons tous une brûlure de l'âme que provoque la beauté des promesses d'un enfant. Pour certains, c'est quand on voit un bébé, pour d'autres, c'est un sourire de l'enfance, mais ça provoque en nous cette belle brûlure de l'âme parce que ce sont des promesses. En notre sujet, on va décrire comment ces promesses sont violentées, violées, volées. Mais si nous sommes tous debout, nous pourrons relever la promesse de ces regards d'enfant. Claudel disait dans le sourire de Satan, la substance de la beauté, c'est ce qui est le sens. Donc il nous faut ce soir, ensemble, travailler, retrouver, à nous caler dans un certain sens devant ces représentables. Notre propos, donc, n'est pas ce soir d'accuser l'Église, tout le monde s'en charge, ni non plus de l'innocenter à tout prix. d'autres s'en chargent aussi. Depuis la remise du rapport de la commission présidée par M. Sauvé, un jalon historique, on peut le dire, s'est accompli. Mais c'est un jalon, faut-il le rappeler, fruit de décennies de travail d'association au service de l'enfance maltraitée, de soignants, de la lente mais impérieuse montée de prise de conscience culturelle, sociétale, jalon à partir duquel il convient de continuer en regardant l'ombre portée au bout de nos pieds, pas plus loin. Ce sont notre ambition d'être là. Pourquoi ? Car l'ampleur du phénomène est immense. Il requiert beaucoup d'attention, un large spectre d'attention où seule la mutualisation, comme je vous le disais, des efforts devient une ressource pour ces violences, pour les aborder, qui traversent l'histoire des hommes. Pour s'en convaincre, nous partagerons, après la fin de cette introduction, quelques éléments concernant les chiffres que donne la CIVI, cette commission sur l'inceste. Notre propos ce soir sera donc juridique et clinique. Il sera aussi ecclésial, mais tout d'abord juridique et clinique. Il veut porter à se pencher sur l'Église avec des questionnements, nous l'espérons, les réponses factuelles qui seront des ressources pour vous aider dans ces remaniements, c'est-à-dire aussi pour nous aider tous à aborder l'irreprésentable, le transgénérationnel. Nous avons tous, dans le lignage des chapardeurs de pommes, sans nul doute, assurément, mais assurément aussi, un jour, des personnes aux pratiques violentes, portant ou ayant porté atteinte au prochain, enfants, femmes et personnes vulnérables le plus souvent. Le transgénérationnel, ce sont ces fantômes que nous avons qui prennent des générations pour ressortir. On se demande pourquoi une personne ne va pas bien, non, d'une tendeur. Nous avons tous cela dans nos familles. Ces personnes qui ont été stigmatisées, incomprises, et c'est un transgénérationnel. Des fantômes d'actes, d'exactions qui ont été commises. La mémoire aussi. Aborder la notion et donc la réalité de la mémoire traumatique, ce que fera Damien, et les figures du mal. Mais pour ça, il nous faudrait ne jamais perdre la perspective qui unit l'Église aux prêtres dits pédophiles, ni à l'enfant martyr caché derrière lui. Pourquoi l'Église, chers amis, est-elle, vous avez dû vous poser cette question comme moi, pourquoi l'Église est-elle si floue, fuyante, je m'y encore au présent néanmoins, voire dissimulatrice, mensongère? Elle le fut depuis si longtemps sur ce fléau de pédophilie, dont on croyait parfois l'accuser abusivement il y a encore peu de temps. Maintenant, comme le rideau semble tomber et qu'elle apparaît nue dans une laideur insoupçonnée, insupportable, on parle de drame systémique, de cléricalisme. Il nous faut tenter de scruter ces éléments ce soir. Des pans entiers de son personnel, comme Jacques Maritain nommait les personnes responsables dans l'Église, des pans entiers de son personnel, de ses membres, nous, vous, aimerions parfois passer à autre chose. Cela ne se peut. L'Église a pu persister en la personne de ses évêques, souvent de certains prêtres, de nous tous, chrétiens parfois, a pu persister à faire l'étonner, à jeter la pierre sur le voisin, sur d'autres lieux. Vous savez comme moi, les autres lieux furent et sont, demeurent, les homosexuels, parfois les familles divorcées, précaires, 1968, le relativisme, etc. Tout ceci à tel point que maintenant, comme dans un immense jeu de dominos, nos papes, les papes eux-mêmes, sont à leur tour éclaboussé. Mais c'est nous tous qui pouvons avoir une part réactive de dignité bien ancrée dans le réel de ces événements, informer son faux semblant, sans biais, dignité de connaissance qui pourra être une ressource pour le futur et pour les personnes victimes qu'il nous sera donné de croiser ou de connaître. Connaissance qui est l'escabeau de l'empathie ou de la compassion, pas l'inverse. Jamais l'empathie ou la compassion n'est l'escabeau de la connaissance. Et nous allons pouvoir le comprendre mieux avec Damien, psychologue clinicien, et Benjamin, juriste. Il pourrait y avoir deux manières d'aborder le sujet aussi. Tout d'abord, soit en prenant un point de vue distant, extérieur au monde catholique, ce sera celui des médias, souvent de leur vision kaléidoscopique du réel surinformé et anxiogène, tant pour n'importe quel citoyen que pour n'importe quel chrétien. Nous sommes tous pourvus d'un fatras d'infos. Mais ce soir, nous ferons halte. Ce peut être, toujours dans cette première façon d'aborder le sujet, bien sûr d'un point de vue distant et salutaire, celui de la justice que nous allons emprunter avec Benjamin, et enfin du clinicien. Mais il restera toujours quelques points inexplorés ou mal compris qui tiennent justement à la nature religieuse et particulière qu'a l'Église d'être ce qu'elle est. Donc la deuxième manière peut être au contraire d'adopter un point de vue intérieur au catholicisme qui permet, du moins on l'espère, de mieux comprendre ses ressources intimes et ses ressorts intimes. Donc, me direz-vous, eh bien, il nous faut, me semble-t-il, croiser toutes ces compétences, les rendre collaboratives, congruentes. Je crois, comme mon ami Serge Besançon, psychiatre, qu'on fait fausse route à juger les réactions de l'Église dans sa hiérarchie, comme dans l'ensemble de ses fidèles, comme celle de n'importe quelle institution. Je vais le citer. À projeter sur elle, du moins par principe, le culte du secret, l'hypocrisie ou la volonté de s'affranchir des lois, ce n'est pas qu'elle désobéit aux lois, c'est qu'elle obéit à d'autres lois qui sont spirituelles, sinon elle ne serait tout simplement pas l'Église. Toutes ces affaires, le prêtre pédophile, se situent dans un même monde où tous les protagonistes sont catholiques et pensent comme tels. Il ne s'agit donc pas de cas de pédophilie habituels. Le terrain est en soi particulier, à la fois restreint. On ne risque rien si l'on n'appartient pas à cette sphère, semble-t-il. Et pourtant, ce terrain est immense, puisqu'il concerne plus d'un milliard d'individus. Alors prenons les choses par le commencement. L'Église, c'est l'épouse du Christ depuis saint Paul et la mère des fidèles. Par là, elle est la mère du prêtre et comme sa victime, c'est depuis sa naissance être enfant de l'Église. Les parents de la victime partagent cette vue sur eux-mêmes comme pour leur propre enfant. En un mot, le prêtre, l'enfant et les parents appartiennent à la même famille. C'est une fratrie dans la mère et l'Église. Enfin, on ne peut être chrétien, a fortiori catholique, sans penser que l'Esprit-Saint ne soit à l'œuvre dans le cœur de chaque baptisé. Ça n'empêche pas, vous savez comme moi, de rester pécheur tout au long de la vie, parfois pécheur pardonné, mais pécheur quand même, de tomber malade et même de mourir à ce monde. Il en va de même pour l'Église, sauf à croire qu'elle ne forme un seul corps dont nous faisons partie. Il m'apparaît donc qu'on doit considérer l'Église comme un corps malade et que c'est seulement ainsi que l'on peut essayer de poser un diagnostic, comprendre l'étiologie de son mal et si possible entrevoir les pistes thérapeutiques et les remaniements indispensables. La commission sauvée et la civise informent, mais demeurent un immense chantier théologique sur les pas de Vatican II et du synode sur la synodalité. Ces éléments que vous n'ignorez pas, je ne vous apprends rien, je le sais, je l'imagine, mais pour réintroduire de la nuance justement théologique, délicatesse de ce corps mystique et qui pourtant ne peut pas faire, ne doit pas faire ce que nos deux autres intervenants vont nous dire. Petite première conclusion partielle. Ces travaux, ceux de la Commission Sauvée et de la CIVI, ces travaux auront un rôle de sanation, de remaniement, de transaction et de réconciliation en refusant la passion, la haine, l'exclusion et les réponses trop vite accomplies. L'Église, la première, a ouvert ce chantier sociétal. Elle voit son rôle de vigile et de sentinelle s'en trouver augmenté. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Une haute nouvelle, mais une nouvelle qui oblige. Lui fera-t-il abandonner son modèle asymétrique qui déforme toutes les relations humaines et dévoie l'autorité et la saine obéissance? Le cléricalisme défensif et autre chose que vous avez eu, je sais, une remarquable aussi présentation la semaine dernière, n'est-ce pas, père? L'un des talents d'Achille de l'Église, c'est en quelque sorte le talent d'Achille des autocraties, dans sa forme humaine institutionnelle, non pas dans son corps mystique. Il n'y a plus personne, à certains moments, qui pouvait être en capacité de dire la vérité ou qui ait eu la possibilité de la faire surgir. C'était abyssal. Comment se tourner vers une culture de la protection? La commission de suivi, tout récemment nommée à la suite de la commission Sauvée, vous avez pu lire dans la Croix un rapport intéressant sur cette commission de suivi sur ceux qui ont été nommés. Cette commission de suivi, à mon humble sens, doit s'ancrer dans la vie des paroisses, transformée sur et par ses sujets à l'intime de nos vies ou percutant nos vies. C'est par nos consciences éclairées que cette commission de suivi aura un vrai sens fécond. Je vous donnerai tout à l'heure, tout à l'heure je vais laisser parler mes deux amis. Donc, qui commence?
Je commence.
Toi qui commence?
Oui.
Pour cette introduction. Merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être ici et de pouvoir m'exprimer devant vous sur ce sujet effectivement très important que je vais m'employer à qualifier juridiquement. Ce que je vais faire dans cette intervention, c'est vous expliquer comment, d'un point de vue juridique, on qualifie ce qu'on appelle parfois de manière euphémisante les abus sexuels dans l'Église, qu'on va effectivement, comme l'indique le titre de l'intervention, davantage qualifié d'agression en droit. Je vais le faire en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous exposer la manière dont le droit pénal appréhende ces comportements. Et dans un second temps, je vais me pencher sur la matière civile de manière plus brève pour vous donner quelques clés d'explication. Avant de commencer, simplement, pour poser les termes du propos, la distinction entre le droit pénal et le droit civil, c'est leur objet. Le droit pénal, il organise la réaction de la société face à une infraction, face à un comportement dont on considère qu'il a heurté la collectivité, qu'il a porté préjudice à l'ordre social. Tandis que le droit civil, lui, organise toujours la réaction sociale, bien évidemment, mais vis-à-vis du préjudice subi par la victime. Donc le droit pénal, son objet, c'est la préservation de la société en tant que telle, en tant que corps organisé, tandis que le droit civil, son objet, c'est la préservation des intérêts de la victime. Donc je commence, comme je vous l'expliquais, par le droit pénal. En matière pénale, on va pouvoir distinguer les abus selon leur consistance, leur matérialité, et on peut distinguer notamment ceux qui sont directement commis par l'agresseur sur la victime, c'est ce que je vais voir dans un premier point, et on peut aussi aborder ensuite le cas des personnes qui n'agressent pas directement les victimes, mais qui contribuent quelque part à cette agression, soit en étant activement les complices, soit en couvrant les faits qui ont été commis en ne les dénonçant pas. C'est selon cette articulation que je vais dérouler mon propos. Pour ce qui concerne les actes commis par les agresseurs, en droit, on ne parle pas d'abus, effectivement. On parle de trois infractions qui ont, encore une fois, une matérialité différente, qui ne se définissent pas de la même façon. Là, je vais rentrer, je suis désolé, dans des détails un peu plus crus, mais pour vous dire la réalité juridique du phénomène. On parle de trois catégories d'infractions, comme je vous le disais. La première catégorie, c'est le viol. La seconde catégorie, c'est l'agression sexuelle. Et la troisième catégorie, c'est l'atteinte sexuelle. Ces trois mots renvoient à des réalités juridiques différentes. Et je vais vous l'exposer en vous précisant que, vous le savez certainement, une réforme est intervenue récemment, une réforme du 21 avril 2021, qui a redéfini le périmètre de chacune de ces infractions. Et je vais vous expliquer quelle était la réalité du droit avant 2021, qui est en fait le droit qui va s'appliquer à toutes les agressions sexuelles qui auraient été commises avant 2021, et le droit qui a découlé de cette réforme et qui s'applique depuis avril 2021. Il s'appliquera à toutes les agressions sexuelles commises, toutes les agressions sexuelles, viol et atteinte sexuelle, commises après avril 2021. Pour ce qui est du droit antérieur à cette réforme d'avril 2021, on a ce triptyque viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle, avec des définitions différentes. Je vous donne d'abord la définition du viol. Le viol, il se définissait comme une pénétration sexuelle imposée à la victime contre son consentement, contre son libre consentement. Plus précisément, c'est une pénétration sexuelle imposée à la victime par contrainte, violence, menace ou surprise. En droit pénal, on cherche à qualifier les faits qui sont commis, ce qui consiste à vérifier que chacun des termes que je viens d'employer est bien présent dans le cas qui est examiné. Ce qui signifie que, dans une affaire donnée, où on suspecte qu'un viol a été commis, il faut vérifier que tous ces éléments sont réunis. Est-ce qu'il y a une pénétration? Et est-ce que le consentement de la victime était absent en raison de la part de l'auteur, de l'usage de la contrainte, de la violence, de la menace ou de la surprise? Je m'arrête d'abord sur le terme de pénétration pour vous indiquer qu'il ne concerne pas exclusivement, comme on pourrait l'imaginer, les pénétrations génitales. Il va concerner également ce qui renvoie à la sodomie, et ça renvoie également aux fellations. Étant précisé que depuis 2018, cela concerne les fellations également lorsqu'elles ont été commises sur l'auteur de l'agression, mais aussi lorsque l'auteur de l'agression a commis la fellation sur la victime. Auparavant, on considérait que dans cette hypothèse-là, lorsque l'auteur de l'agression avait pratiqué une fellation sur la victime, on n'était pas face à un viol, puisque dans cette hypothèse, si on se figure la scène, c'est l'agresseur qui était pénétré. Et depuis 2018, on considère malgré tout qu'il s'agit d'un viol. C'est un premier point. Deuxième point important, quand on parle de contrainte, violence, menace ou surprise. Violence, je pense qu'on comprend bien tout ce de quoi il s'agit. Menace, on comprend également. Contrainte et surprise, ce sont des termes qui sont peut-être un peu plus vagues. Ce qu'a dit la jurisprudence dans un premier temps, ce qu'ont dit les juges dans un premier temps, et ce qu'a confirmé le législateur, ce qui est désormais écrit dans le code pénal, c'est que la contrainte peut résulter de la différence d'âge significative entre l'auteur et la victime. Donc on se figure un auteur qui serait âgé d'une quarantaine, cinquantaine d'années et une victime qui serait âgée de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et elle peut aussi résulter, cette contrainte, de l'autorité de droit ou de fait que l'agresseur a sur la victime. Ce qu'on peut retrouver justement dans le contexte des abus commis dans le cadre de l'Église. Voilà pour cette définition de ce qu'était un viol avant 2021. Donc, une pénétration et l'usage de la contrainte, de la violence, de la menace ou de la surprise. C'est une infraction qui est punie de 15 ans de réclusion criminelle si ce n'est que par le jeu de certaines circonstances aggravantes, c'est-à-dire soit le fait que la victime est âgée de moins de 15 ans, soit le fait que l'auteur des faits avait une autorité de droit ou de fait sur la victime, ce qui renvoie encore une fois aux abus commis dans le cadre de l'Église, la peine est portée à 20 ans d'accusation criminelle. Ça, c'est donc le cas. Ensuite, deuxième catégorie, comme je vous l'expliquais, c'est la catégorie des agressions sexuelles. Ce n'est pas la même chose que le viol. Les agressions sexuelles, ce sont tous les actes de contact sexuel imposés à la victime qui ne sont pas des pénétrations. Donc là encore, ça renvoie à des réalités comme la masturbation du sexe d'un homme, ça renvoie à des caresses sur la poitrine d'une femme, sur les fesses d'un homme ou d'une femme, et ça renvoie même à des contacts avec le corps de la victime qui ne sont pas sexuels en soi, qui ne touchent pas des parties sexuelles du corps, par exemple une caresse dans le dos, mais qui est pratiquée dans un contexte sexuel. Nous avons par exemple des arrêts de jurisprudence, des arrêts de cour d'appel, qui ont pu condamner des prêtres pour avoir administré une caresse dans le dos de leur victime, tout en leur susurrant à l'oreille des paroles de nature sexuelle. Vous voyez que là, le contact en lui-même n'est pas sexuel, c'est pas une partie sexuelle du corps qui est touchée, mais pour autant, le contexte dans lequel a lieu ce contact colore sexuellement ce contact et permet de retenir la qualification pénale d'agression sexuelle. L'agression sexuelle, elle était punie avant la réforme, je parle toujours du droit antérieur à la réforme de 2021, de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Commise sur un mineur de 15 ans, c'est-à-dire un mineur âgé de moins de 15 ans, la peine passait à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Lorsque l'auteur a une autorité de droit ou de fait sur la victime, la peine passait à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Voilà pour la deuxième catégorie d'infraction. Et enfin, la troisième catégorie d'infraction, c'est la catégorie des atteintes sexuelles. On distingue deux types d'atteintes sexuelles. Atteintes sexuelles sur les mineurs âgés de moins de 15 ans et atteintes sexuelles sur les mineurs âgés de plus de 15 ans. Donc un mineur qui aurait entre 15 et 18 ans. Atteintes sexuelles sur un mineur âgé de moins de 15 ans, c'est une infraction qui, en droit pénal, fait d'ailleurs polémique. C'est lorsqu'il y a un rapport sexuel entre un majeur et une personne qui a moins de 15 ans, qui va être la victime en l'occurrence, sans pour autant qu'il y ait eu usage de la part de l'auteur de contraintes, violences, menaces ou surprises. En clair, c'est un rapport sexuel librement consenti entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans. Et je pense que vous voyez pourquoi c'est quelque chose qui fait polémique en matière juridique, c'est parce que ça suppose qu'à moins de 15 ans, on est capable de donner librement son consentement à une relation sexuelle. Néanmoins, cette infraction existe toujours sous une autre forme, je vous expliquerai après de quoi il s'agit. À côté, nous avons donc les atteintes sexuelles sur mineurs de plus de 15 ans. Atteintes sexuelles sur mineurs de plus de 15 ans, c'est lorsqu'un majeur va avoir une relation sexuelle apparemment consentie avec un mineur qui est âgé d'entre 15 et 18 ans, mais que ce majeur avait une autorité de droit ou de fait sur ce mineur âgé d'entre 15 et 18 ans. Donc là encore, ça renvoie à ce qu'on a pu appeler les abus commis dans le cadre de l'Église. Cette infraction, elle était punie avant 2021 de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Et pour ce qui est de l'atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, elle était punie de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Le droit a donc évolué en 2021, comme je vous le disais, notamment par rapport à cette infraction d'atteinte sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans dont je vous parlais tout à l'heure, puisqu'on a eu quelques affaires judiciaires dans lesquelles un auteur majeur, âgé d'une trentaine d'années, avait entretenu une relation sexuelle avec une jeune mineure âgée de 11 ans, et les juges avait malgré tout considéré qu'il n'y avait pas eu usage de contraintes, violences, menaces ou surprises. Ce sont deux affaires qui avaient fait débat, l'une à Pontoise et l'autre à Melun. La presse s'en était fait écho, s'en était émue, pour dire qu'il était inadmissible que ces juges aient pu considérer qu'une relation sexuelle de la part de ces enfants âgés de 11 ans avait été consentie. Alors, quel est l'état du droit désormais suite à cette réforme? Le viol a été réformé et son champ d'action a été agrandi. La définition du viol s'est agrandie. Premier point. Je vous ai dit tout à l'heure que le viol, ça impliquait une pénétration. Aujourd'hui, ce n'est plus nécessairement le cas. Aujourd'hui, le viol, c'est soit une pénétration imposée, soit un acte bucogénital imposé. Ce qui signifie que, par exemple, un cunnilingus qui serait pratiqué sur la victime serait automatiquement considéré comme un viol, sans même qu'on ait à se poser la question, il faut dire un peu particulière, que se posait la jurisprudence auparavant, à savoir, est-ce que la langue est allée au-delà de l'oreille du vagin? Cette question-là, désormais, est évacuée et ne se pose plus. Deuxième hypothèse, imaginons un baiser qui serait pratiqué sur le pénis de la victime. Vous voyez que dans ce cas-là, il n'y a pas de pénétration à proprement parler, puisqu'il y a juste les lèvres qui sont posées sur le pénis. Et bien dans cette hypothèse-là encore, aujourd'hui, depuis cette loi de 2021, on parlerait de viol, et plus d'agression sexuelle. Ce qui augmente bien sûr la peine encourue, qui passe de 5 ans à 15 ans d'inculpation criminelle. Première réforme. Et deuxième point de réforme très important, c'est que désormais, lorsque un rapport sexuel a lieu entre un majeur et un mineur qui est âgé de moins de 15 ans, que ce rapport inclut une pénétration ou un rapport bucogénital, automatiquement, sans même qu'on se pose à un instant la question du consentement, ce rapport sera considéré comme un viol. À une exception près, c'est lorsque l'écart d'âge entre l'auteur et la victime est de moins de 5 ans. C'est ce que le législateur a appelé la clause renouvelée juridique. Je vous laisse libre d'apprécier le choix de cette chose un peu particulière. Sauf dans cette hypothèse, il s'agira d'un viol. Réforme identique concernant les attachements sexuels. Si un rapport sexuel a lieu entre un auteur majeur et un mineur de moins de 15 ans, rapport sexuel qui n'inclut pas de pénétration ou d'acte bucogénital, sinon on parlerait de viol, dès lors que ce rapport sexuel a lieu, il sera automatiquement qualifié d'agression sexuelle sans qu'on se pose la question du consentement. Et encore une fois, l'exception, c'est si l'écart d'âge entre ce majeur et ce mineur de moins de 15 ans est inférieur à 5 ans. Quant à la fraction d'atteinte sexuelle, dont je vous parlais tout à l'heure, vous savez, atteinte sexuelle sur mineur âgé de moins de 15 ans, désormais elle n'a presque plus d'objet, puisque par définition, si un majeur a une relation sexuelle avec une personne qui est âgée de moins de 15 ans, ce sera soit un viol, soit une agression sexuelle. Sauf justement dans cette hypothèse où l'écart d'âge est inférieur à 5 ans. Si l'écart d'âge est inférieur à 5 ans, là, on pourra toujours parler d'atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. Et la peine encourue n'a pas évolué, elle est toujours de 7 ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende. Et enfin, dernier point de réforme, je vous ai parlé tout à l'heure également de l'atteinte sexuelle sur mineur âgé de plus de 15 ans. Eh bien, la définition de cette infraction n'a pas évolué, si ce n'est que la peine encourue a augmenté, passant de 3 ans à 5 ans. Donc vous voyez que la logique répressive de ce texte a, d'une part, accru le champ d'incrimination du viol, le champ d'incrimination de l'agression sexuelle, et augmenté globalement les peines encourues pour ces trois infractions que je vous ai présentées. Un autre point qui me semble important d'aborder concernant la matière pénale, c'est la question de la prescription. Le délai de prescription des trois infractions que je vous ai présentées s'est étendu de réforme en réforme. Je vais vous donner l'état des lieux tel qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, on classe ces différentes infractions deux catégories, le viol qui est un crime parce que la peine encourue est supérieure à 10 ans, c'est ça la définition juridique, et d'autre part l'agression sexuelle et l'atteinte sexuelle qui sont des délits, parce que la peine, si vous vous souvenez, parce que les peines que je vous ai indiquées, sont inférieures à 10 ans d'emprisonnement. D'ordinaire, pour les crimes, le délai de prescription est de 20 ans. qui signifie que lorsque quelqu'un commet un crime, en principe, ce crime ne pourra plus être poursuivi pénalement, ne pourra plus donner lieu à répression si les poursuites ont lieu plus de 20 ans après les faits. Si ce crime est un viol, toutefois, c'est une règle particulière qui va s'appliquer. La règle est la suivante, elle est double. Si le viol est commis sur un mineur, le délai de prescription est de 30 ans à compter de la majorité de la victime. En clair, la victime pourra porter une plainte et enclencher des poursuites pénales, solliciter en tout cas l'enclenchement de poursuites pénales, jusqu'à ses 48 ans. Pour ce qui est des agressions sexuelles, qui sont des délits, en général, pour les délits, le délai de prescription, c'est de 6 ans. Eh bien, pour les agressions sexuelles et les atteintes sexuelles également, le délai de prescription, si la victime est mineure, c'est de 20 ans à compter de sa majorité. En clair, c'est jusqu'aux 38 ans de la victime. Et si la victime était majeure au moment des faits, le délai de prescription est tout de même de 10 ans, c'est-à-dire supérieur à ce qu'il est pour les autres délits. Et pour terminer sur cette question de la prescription, il faut savoir qu'en 2021, le législateur a introduit ce qu'il a appelé la prescription glissante. Qu'est-ce que ça signifie, la prescription glissante ? Ça veut dire que si un agresseur commet par exemple un viol à un instant T, et qu'il commet un viol 10 ans plus tard, un autre, sur une autre victime, eh bien le point de départ du délai de prescription de la première infraction va être reporté au jour où il est commis la deuxième agression. Ce qui va permettre, in fine, de juger des faits de viol ou d'agression sexuelle et d'atteinte sexuelle qui ont été commis plusieurs dizaines d'années auparavant.
Prescription glissante.
Ça ne devient pas imprescriptible, mais ça devient de plus en plus difficile à prescrire. Voilà pour le volet pénal des agressions sexuelles, du viol et des atteintes sexuelles. Je vais dire maintenant quelques mots, rapidement, pour ce qui concerne la matière civile. Je vous disais tout à l'heure que le droit civil, c'est le droit qui vise à réparer le préjudice qui a été subi par la victime. Le principe en droit civil, c'est que la responsabilité est individuelle. Ça signifie que celui qui doit réparer l'intégralité du préjudice subi par la victime, c'est l'agresseur. Néanmoins, en droit civil, il existe également des exceptions qui s'appellent des mécanismes de responsabilité du fait d'autrui. Ce sont des hypothèses limitatives, listées par le Code civil, dans lesquelles je peux être responsable non pas de mon propre fait, mais du fait commis par quelqu'un d'autre au regard des responsabilités que j'ai vis-à-vis de lui. Un cas que vous connaissez tous, c'est le cas des enfants. Si un enfant âgé de 6 ans, par jeu, par mégarde, allume une allumette dans la ferme voisine et fait brûler toute la ferme, cet enfant lui-même ne sera pas responsable civilement. En revanche, ses parents seront responsables de son fait à lui. C'est un mécanisme qu'on retrouve aussi dans les entreprises pour la responsabilité qu'on appelle des commettants vis-à-vis de leurs préposés. Et c'est un mécanisme de responsabilité civile qu'on peut songer à retenir dans le cadre du civil. Ce qu'il faut pour établir ce lien, cette responsabilité, c'est un lien de préposition, c'est-à-dire qu'on a une personne qui se trouve en situation d'obéissance par rapport à l'autre. Il faut qu'une faute soit commise, en l'occurrence l'agression, le viol ou l'atteinte sexuelle, et il faut également que cette faute ait été commise dans le cadre des fonctions. On peut se poser la question, si une agression sexuelle est commise dans le cadre de l'église, est-ce qu'on peut considérer qu'elle est commise dans le cadre des fonctions ? Eh bien, la jurisprudence répond oui. Elle répond qu'à partir du moment, par exemple, que l'église, dans le cadre même de l'église, sur le lieu de travail, cette agression se commet dans le cadre des fonctions. Et je terminerai en disant que même si ce type de responsabilité civile à l'heure actuelle n'est qu'envisagé, si l'on fait un petit peu de droit comparé, on constate que dans les pays anglo-saxons, notamment l'Angleterre, pour désigner le système de responsabilité du fait d'autrui, on recourt à une expression qui est la vicarious responsibility, liability. Et vicarious, ça renvoie en français au mot vicaire. Donc, en s'inspirant du modèle juridique anglo-saxon, on pourrait peut-être avoir un élément de réponse pour notre système français. Je m'aperçois que je n'ai pas parlé des mécanismes de dénonciation.
Oui.
Comment on doit se comporter lorsque des faits de cette nature sont portés à notre connaissance? Est-ce qu'il faut les dénoncer? Je pourrais en parler par la suite si vous avez des questions sur ce point. Merci. Oui.
Merci, Benjamin.
Petite question. Est-ce que ces faits peuvent être garantis par des compagnies d'assurance? C'est la responsabilité civile. Est-ce que légalement, on pourrait contracter ce genre de contrôle?
Non, parce qu'il s'agit d'infractions pénales contre les personnes et qui portent atteinte à l'intégrité sexuelle. Et à ma connaissance, il n'y a pas de mécanisme d'assurance pour ce type de fait.
Vous avez parlé de non-dénonciation.
Oui.
Vous deviez expliquer, justement, ce n'était pas le deuxième chapitre.
Oui, je l'ai sauté en voulant respecter le temps, mais je peux en parler maintenant si. Oui, j'ai le temps. Alors, le mécanisme de non-dénonciation. Je vous disais tout à l'heure que je voulais parler des agresseurs, ceux qui commettent les faits, et de ceux qui soit en sont complices, soit les couvrent. Déjà, je vais parler simplement de la complicité, parce que. Dans le jargon médiatique, on a la complicité facile. On utilise le mot complice un peu à toutes les sauces, alors qu'en réalité, juridiquement, il a un sens bien particulier. Pour être complice, il faut avoir apporté son aide ou son assistance à la commission d'une infraction. Aide ou assistance qui doit être antérieure ou concomitante à la commission de cette infraction, et qui doit consister en ce qu'on appelle en droit un acte positif. C'est-à-dire plus qu'une négligence, plus qu'une abstention, quelque chose qui a un impact sur le réel, quelque chose de positif. Dans l'hypothèse où on ne dénonce pas une infraction, on ne commet pas justement cet acte positif. Ce qui fait que juridiquement parlant, on ne peut pas être poursuivi pour complicité d'agression sexuelle. Le complice d'agression sexuelle, c'est celui qui, par exemple, en connaissance de cause, va amener des enfants à l'agresseur. C'est celui qui va fermer la porte pour que l'agresseur puisse commettre ses actes. Ça, c'est un complice, parce qu'il commet un acte positif d'aide ou d'assistance qui est antérieur ou concomitant à l'infraction. Et ce complice, s'il existe, il encourt les mêmes peines que l'auteur principal. Donc, pour un viol, il encourt lui aussi 15 ans d'inclusion criminelle, par exemple. Pour celui qui ne dénonce pas, c'est autre chose. Il y a une infraction spécifique qui existe dans le code pénal, qui est justement l'infraction de non-dénonciation d'agression sexuelle, de viol ou d'atteinte sexuelle. La peine encourue, c'est 3 ans, et si les faits portent sur un mineur âgé de moins de 15 ans, c'est 5 ans d'emprisonnement. Plusieurs questions au sujet de cette infraction ont été résolues très récemment dans le cadre de l'affaire impliquant Mgr Barbarin, dont je pense que vous avez tous entendu parler. Et d'ailleurs, hasard du calendrier, l'arrêt de la Cour de cassation qui résout ces problèmes a été rendu le 14 avril 2021, c'est-à-dire une semaine avant la loi du 21 avril 2021 qui réforme la matière. Vous voyez, il n'y a pas forcément de lien, mais c'est un hasard du calendrier. 3 questions importantes se posaient. La première est la suivante. Si les faits dénoncés, en l'occurrence auprès de Mgr Barbarin, si les faits dénoncés sont eux-mêmes prescrits, parce qu'il s'agit de viol ancien, d'agression sexuelle ancienne ou d'atteinte sexuelle ancienne, est-ce que l'obligation de dénonciation aux autorités subsiste? Une première question. Eh bien, la Cour de cassation a répondu par la positive, ce qui signifie que si les faits sont portés à la connaissance d'une personne, alors même que ces faits sont prescrits, ne peuvent plus donner lieu à de poursuites judiciaires, il appartient tout de même à cette personne qui a reçu les informations de les dénoncer aux autorités. Ne serait-ce que pour éviter qu'il y ait une incompréhension au sujet de la durée de la prescription, de manière à ce que les autorités judiciaires puissent elles-mêmes vérifier que les faits sont bien prescrits. C'est un premier point. Deuxième question qui se posait, au sujet de ce délit de non-dénonciation, est-ce que ce délit de non-dénonciation lui-même peut se prescrire? Si par exemple on a eu connaissance de faits de viol ou d'agression sexuelle, mais il y a très longtemps, ça fait 20 ans qu'on nous a les apporté à notre connaissance, est-ce que on est toujours en train de commettre cette infraction de non-dénonciation tant qu'on ne les a pas dénoncés? Et là, la Cour de cassation répond non. Elle répond que le délai de prescription pour cette infraction de non-dénonciation, c'est 6 ans. Donc ça veut dire que si à un instant T, on reçoit la dénonciation d'un viol par exemple, et qu'on s'abstient de le dénoncer pendant 6 ans, eh bien au bout de cette 6e année, même si le viol lui-même peut encore être poursuivi, l'infraction de non-dénonciation ne peut plus être poursuivie. Donc c'est délai de 6 ans. Et la troisième question qui se posait dans cette affaire impliquant encore une fois Mgr Barbarin, c'est la suivante. L'infraction de non-dénonciation dont je vous parle, elle concerne le cas où la victime soit est mineure, soit est une personne vulnérable, vulnérable physiquement ou psychologiquement. Question, si la personne devient majeure ou qu'elle perd son état de vulnérabilité, est-ce que l'obligation de non-dénonciation s'applique toujours? En clair, si la personne victime des faits est elle-même en situation de les dénoncer parce qu'elle est devenue majeure, est-ce que l'obligation de dénonciation pèse toujours sur celui qui a reçu cette dénonciation? Et là, la Cour de cassation, d'une manière qui me semble un peu hasardeuse au titre personnel, parce que je pourrais vous expliquer pourquoi si vous le souhaitez, considère que cette obligation ne pèse plus sur celui qui a reçu la dénonciation. Donc en clair, si la victime devient majeure, c'est à elle de porter plainte. Et ce n'est plus à la personne qui a reçu la confidence de dénoncer les faits. Sauf dans cette hypothèse où cette personne est toujours vulnérable. Et c'est là, à mon avis, que la blesse, ça veut dire que ça va être à celui qui a reçu la confession, qui a reçu confidence des faits qui ont été commis, de déterminer si la personne qui va rapporter ces faits est vulnérable ou pas. Or, apprécier la vulnérabilité, parfois c'est chose aisée, parfois c'est plus compliqué, notamment si la vulnérabilité est psychologique. Donc je ne suis pas sûr que cette jurisprudence-là, sur ce point-là en tout cas, de la Cour de cassation est un grand avenir. Je pense honnêtement qu'elle va être durcie dans les années qui vont suivre, mais pour l'instant on en est là. Pour cette question de la dénonciation. Oui.
Justement, le législateur a-t-il réfléchi, vous avez commencé à vous peut-être de rétracter, sur la confession?
Non, il n'y a pas eu de réflexion sur cette question-là. La question du secret, est-ce qu'il y a la confession, pas d'avancée en tout cas sur
non,
cette
Non, il
n'y
a plus d'avancée sur ça, oui.
Je ne peux pas considérer en droit la confession.
Non.
On va réserver les autres questions pour la fin, je pense.
Oui.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Benjamin.
Merci beaucoup, Benjamin, pour ces précisions chirurgicales, bien nécessaires, me semble-t-il. Merci, Martine. Merci beaucoup à vous de nous accueillir ici ce soir. Merci d'être là. Car si vous êtes là, c'est de bon augure. J'aime pouvoir contribuer, je l'espère, à faire en sorte que le statut des personnes qui subissent ce que je vais appeler les violences sexuelles, sans rentrer dans la subtilité des trois cas détaillés par mon collègue Benjamin. Voilà, je pense que c'est ouvrir la parole et c'est aller vers un mieux, vers des solutions. Donc je suis aujourd'hui enseignant-chercheur en psychologie clinique, mais j'ai exercé pendant plus d'une vingtaine d'années en tant que psychologue clinicien à l'hôpital et en libéral. Et depuis environ une dizaine d'années, je me suis spécialisé dans la prise en charge des victimes de traumatismes. Et c'est ce dont je vais vous parler ce soir, les conséquences psychologiques de la violence sexuelle, donc au sens large. Je préviens d'emblée que mon expérience clinique est vraiment auprès des victimes et que je n'ai vraiment pas de compétences pour vous dire quoi que ce soit de fin et précis sur les profils peut-être psychologiques des agresseurs, par exemple. Moi, je vais vraiment vous parler du côté des victimes et des conséquences psychologiques. Donc, j'ai prévu un propos en 6 points. Essayer de circonscrire, de définir ce qu'est un traumatisme, un focus sur les agressions sexuelles, quelques pistes pour essayer de comprendre ce qui se passe, et puis aussi je me suis dit qu'il pourrait être utile de donner quelques clés aussi de choses que l'on peut faire si un jour une personne vous révèle des faits de cette nature. Alors, qu'est-ce qu'un psychotraumatisme ? C'est un mot peut-être aujourd'hui un peu galvaudé, très utilisé, dont on a tristement entendu parler, notamment autour des vagues d'attentats que nous avons subies. Mais de quoi parle-t-on quand on parle de psychotraumatisme ? Il s'agit d'un trouble psychologique reconnu par les classifications nosographiques des maladies au plan international. Ce n'est donc pas une faiblesse. Mais c'est bien un trouble psychologique, psychopathologique, qui associe le particulier. La plupart des troubles psychopathologiques, on ne connaît pas leurs origines. On sait que c'est très multifactoriel, qu'il y a une part de génétique, une part d'environnement. Et là, ce sont des troubles où, bien sûr, il y a des facteurs qui jouent, mais il y a un événement ou des événements qui sont la source et la cause principale des désordres psychologiques. Alors, si je me réfère à une des classifications internationales les plus utilisées, en l'occurrence le DSM-5, pour parler de traumatisme, il faut être confronté à un certain type d'événements, que l'on appelle donc des événements traumatiques. Alors, ces classifications sont discutées, discutables, il y a des débats, on ne va pas rentrer dans... Nous n'avons pas le temps, je répondrai à vos questions si vous en avez. Pour le DSM-5, est un événement traumatogène, toute exposition à la mort effective ou la menace de mort, une blessure grave ou des violences sexuelles. Et l'apparition du terme violence sexuelle est assez récent dans les classifications internationales comme événement pourvoyeur de syndrome psychotraumatique et c'est une très bonne chose. Alors, on peut être exposé de différentes manières à ce type d'événement, donc mort, menace de mort, blessure grave ou violence sexuelle, soit en y étant exposé directement, c'est-à-dire qu'on est soi-même victime, soit en étant témoin de quelqu'un subir un événement de ce type, soit en apprenant que quelqu'un dont nous sommes proches a été victime de ce type d'événement. Et cette classification considère enfin un quatrième cas de figure, qui est plus un cas professionnel. Ce sont pour les personnes dont la profession les expose de manière répétée et fréquente à des événements particulièrement douloureux, horribles. Je pense par exemple aux pompiers, secouristes et des choses comme ça. Donc voilà, il faut déjà une exposition donc à un certain type d'événement et pas les autres. Et donc, cette classification déjà nous permet de différencier les événements traumatogènes d'autres événements de vie douloureux et difficiles qui peuvent être aussi pourvoyeurs de différentes difficultés psychologiques, mais qu'on appelle plutôt des événements stressants, rupture amoureuse, licenciement, des choses comme cela. Alors, bien évidemment, chez certaines personnes, ce type d'événements, bien que non traumatogènes, peuvent avoir malgré tout des conséquences psychologiques importantes. Il ne s'agit pas de faire une hiérarchie dans la douleur ou dans la souffrance ici. Par ailleurs, les statistiques nous disent que 80 à 90% d'entre nous avons été ou seront exposés à un ou plusieurs événements traumatogènes dans notre existence. Et ce n'est pas pour ça que nous allons tous développer des syndromes psychotraumatiques. Cela veut donc dire qu'il existe des facteurs de risque et des facteurs de protection qui expliquent que tout le monde ne va pas déclencher les mêmes réactions au même type d'événement. Et le contexte joue beaucoup. Un de mes champs de recherche concerne la psychopathologie des étudiants, et j'ai une recherche en tête qui a montré aux États-Unis que si un étudiant est victime d'une agression sexuelle à l'université ou par un des membres de l'université, eh bien c'est un facteur aggravant, parce que ça a lieu dans une institution qui est censée protéger et par un membre qui a aussi, comme le disait Benjamin, un statut d'autorité sur la personne en question, bien qu'elle soit majeure en l'occurrence le plus souvent. Mais les événements traumatogènes, pourquoi ils sont traumatogènes en fait? Eh bien parce que souvent ce sont des événements très difficilement mentalisables, représentables. L'esprit humain est ainsi fait qu'on a du mal à se représenter la mort et que nous avons des valeurs humaines et nous sommes guidés par des croyances parfois peut-être un peu optimistes, mais que le monde est bon et que si on se comporte bien, et on mérite le bien, etc. Et ce genre d'événement vient complètement ébranler ces croyances et notre cerveau n'étant pas habitué à traiter ces événements hors du commun, eh bien, se trouve en difficulté pour s'adapter et réagir. Notre cerveau est une fabuleuse machine qui passe son temps à traiter de l'information. Quand cette information est neutre ou de charge émotionnelle légère, ça ne pose pas de difficulté majeure, c'est classé dans notre mémoire et c'est rangé. Lors d'un événement traumatique, cette stratégie de traitement de l'information est vraiment mise à mal. Pour revenir sur les facteurs de risque, il y a des facteurs de risque inhérents au type d'événement eux-mêmes. Face à la définition que je vous ai donnée du trauma, un accident de voiture peut être traumatogène, un tremblement de terre, un tsunami, une agression armée, les viols, etc. Pourtant, ce que l'on constate, si l'on est confronté à un événement qui n'inclut pas de violence interpersonnelle, par exemple, un tremblement de terre, il n'y a pas un responsable identifié du tremblement de terre, eh bien le taux de déclenchement de syndrome psychotraumatique, permettez-moi d'utiliser un acronyme pour gagner du temps, je vais dire ESPT, est inférieur à 20%. Dès que l'événement traumatique concerne une violence interpersonnelle, le taux de SPT monte entre 20 et 50%. Et pour atteindre le chiffre de 80% en cas de viol. Vous voyez, donc quand on a subi un viol, on a 80% de risque de développer un épisode de stress post-traumatique. Alors, nous allons maintenant parler, deuxième point un peu plus en détail, des agressions sexuelles. Donc, une des caractéristiques de ce type d'agression, c'est qu'elle est interpersonnelle. Il y a un agresseur qui a donc eu une intentionnalité. Et là aussi, alors c'est terrible de subir une agression sexuelle, mais quand c'est un inconnu, c'est moins terrible que quand c'est par une personne proche. Et les facteurs de gravité sont la proximité affective avec l'agresseur, le fait qu'il soit porteur d'une autorité morale, spirituelle, éducative, et cela sera d'autant plus grave que l'on entretient un lien affectif privilégié de confiance, et que donc l'agresseur vient complètement enfreindre les valeurs portées par sa fonction, d'accord ? Et donc ça concerne les éducateurs, les prêtres. Bien évidemment, un autre facteur de risque, sans doute, c'est d'autant plus grave que la victime est jeune. Alors, qu'est-ce qu'une agression, finalement, au plan psychologique? Eh bien, c'est bien l'utilisation de l'autre par une personne qui se sert de l'autre pour satisfaire son propre besoin et qui, de fait, nie les propres besoins de l'autre et son intégrité en tant que personne. D'accord ? Chose importante, chez les jeunes, les enfants, les adolescents, la curiosité autour de la sexualité est normale et même de bon aloi. Et il est clair, et c'est ce que la loi dit d'ailleurs, que c'est à l'adulte de mettre les limites. Et les agresseurs agissent parfois de manière extrêmement subtile, habile, commencent par se faire tout miel au auprès de la future victime et de ses proches pour endormir la vigilance, gagner la confiance, et après usera de manipulation, puis de chantage, d'emprise, d'intimidation et de peur, ce qui va complètement coincer, enfermer la victime. Donc, une agression faite par une figure d'autorité normalement protectrice, d'autant plus s'il y a un lien affectif, plus ces caractéristiques sont présentes, plus l'agression sexuelle va se rapprocher des conséquences désastreuses que peuvent avoir un inceste. Alors, heureusement, on peut s'en remettre. Nous avons aujourd'hui fait d'énormes progrès en matière d'accompagnement psychologique des victimes. De nouvelles approches se sont développées, se développent encore et se montrent plutôt efficaces. Mais attention, ça reste des approches longues, coûteuses en temps, en énergie et éprouvantes pour les victimes. Et ça nécessite des intervenants spécialisés, formés spécifiquement dans la prise en charge du psychotraumatisme. Parlons maintenant de l'expression clinique des symptômes traumatiques. Donc, premier critère, un événement traumatogène dont je vous ai parlé. Ensuite, pour parler de l'état de stress post-traumatique, il faut présenter différents types de symptômes. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y a quatre familles de symptômes qui, je pense, sont peut-être intéressants de connaître. Première famille de symptômes, ce qu'on appelle les reviviscences. C'est-à-dire l'événement traumatique, dans ce qu'il a de choquant et de brutal, ne peut pas être intégré dans la mémoire, qui est notre mémoire autobiographique. Et donc, l'événement va se rematérialiser sous forme d'images imposées, de cauchemars, de flashbacks. Et la victime, quand elle est en proie à ses reviviscences, est dans un état émotionnel terrible, parce que tout se passe comme si le trauma se reproduisait dans le présent. Deuxième famille de symptômes qui découle des premiers, c'est tellement insupportable à vivre que la victime va tenter de tout faire pour éviter d'être confrontée à ses reviviscences. C'est bien évidemment vain, puisque par définition, on ne peut pas chasser les pensées qui s'imposent. Et c'est là que des complications peuvent survenir, car certaines substances sont utilisées à des fins justement de s'engourdir ou d'éviter de se confronter à ces souvenirs si combien douloureux. Troisième catégorie de symptômes, l'altération de la vision de soi, du monde. Évidemment, quand on a été victime d'un traumatisme, ça ébranle complètement la conviction qu'on a sur les relations, la protection, l'autre, l'image qu'on a de soi. Une caractéristique qui m'a toujours troublé, je n'ai jamais vu une victime, je dis bien une victime, qui n'était pas en proie à des sentiments de culpabilité ou de honte. La victime n'avait beau ne rien pouvoir faire, elle s'en veut, elle se blâme, elle arrive toujours à dire qu'elle aurait dû, qu'elle aurait pu faire quelque chose et qu'elle ne l'a pas fait. Alors ça, c'est, pardon, dernière famille de symptômes, c'est ce qu'on appelle l'hypervigilance, c'est-à-dire que le traumatisme a créé un tel état d'alerte que la personne reste en permanence sur le qui-vive, au cas où un trauma pourrait se reproduire, et ça crée donc des troubles du sommeil, de la concentration, et ce qu'on appelle ces réactions de sursaut au moindre bruit. Donc ça, c'est le tableau du trauma, entre guillemets, classique, l'état de stress post-traumatique, qui est décrit quand on est confronté en général à un événement traumatique. Et puis depuis une trentaine d'années, on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui avaient un tableau clinique beaucoup plus complexe. Et ça a donné naissance à une nouvelle conception qu'on appelle le trauma complexe. Et qui en fait se produit quand la personne victime de traumatisme a vécu des événements traumatiques particulièrement intenses, particulièrement prolongée ou de manière particulièrement répétée. Donc, les agressions sexuelles multiples, la maltraitance infantile, la torture, vous voyez, et on s'en douterait, évidemment, les conséquences sont encore plus délétères pour le fonctionnement psychologique de la victime. Et donc, au tableau traumatique classique que je vous ai décrit, s'accompagne en général, dans ces cas de traumatisme complexe, des perturbations absolument profondes et durables de trois secteurs de fonctionnement de la personnalité, la régulation des émotions, Les gens qui souffrent de traumas complexes ont tendance soit à hyper réagir de manière extrêmement intense aux émotions, ou au contraire à s'anesthésier complètement et parfois à osciller entre les deux. Deuxième grand critère, il y a une altération considérablement profonde et durable de l'estime de soi. Ces personnes se sentent comme abîmées, détruites. Et troisième critère, il y a, on s'en douterait aussi, mais une forte perturbation des relations. Il y a une telle trahison, une telle confusion, que l'équilibre de la confiance est complètement compromis. Les personnes ayant vécu ces traumatismes ne savent plus doser la confiance qui va être soit excessive et remettre les personnes dans des situations de danger, soit au contraire excessivement prudente. Là aussi, il y a des développements actuels, des approches psychothérapeutiques peuvent être d'un grand secours pour les personnes ayant ce type de tableau clinique. Et chose aussi importante, c'est qu'on pense souvent trauma, mais tout le monde ne réagit pas aux événements traumatiques, par de la symptomatologie traumatique. On peut aussi observer des tableaux psychopathologiques aussi variés que anxiété, dépression, trouble du sommeil, trouble alimentaire, scarification, tentative de suicide, etc. Et plus le trauma est complexe, plus les conséquences psychologiques vont être multiples et le tableau clinique devenir extrêmement inextricable. Et voilà aussi pourquoi les psychopathologues peuvent passer à côté d'une étiologie traumatique quand le tableau clinique est aussi complexe. Alors, quelques mots sur les explications. Je me réfère aux travaux d'une psychiatre française qui s'appelle Muriel Salmona, qui a fait une belle synthèse de toutes les recherches neurobiologiques sur le phénomène. Donc nous allons faire un petit peu de biologie ou de physiologie. Quand nous sommes soumis à un stress, notre organisme répond par un mécanisme biologique qui est la réaction de stress. Je ne rentre pas dans les détails, mais de manière très automatique, quand la situation le nécessite, notre corps sécrète des hormones, l'adrénaline, qui permet de nous mettre en alerte et de nous préparer physiologiquement à faire deux choses, essentiellement combattre ou fuir. Et si je réussis à combattre, je réussis à fuir, que le danger est écarté, il y a des mécanismes de régulation qui calment cette sécrétion d'hormones et on peut reprendre le cours de notre vie. Quand la situation est telle qu'il y a des enjeux de coercition ou qu'on ne peut pas combattre ou fuir, soit physiquement, soit par pression psychologique, eh bien, les hormones de stress continuent d'être sécrétées, puisque le danger perdure. Or, cette sécrétion devient excessive et excessivement toxique pour le corps, pour le cerveau et pour le cœur. Et le cerveau met en place un mécanisme d'adaptation pour arrêter cette hyperproduction d'hormones qui est dangereuse et infinie, en créant comme un court-circuit de cette structure cérébrale profonde qu'on appelle l'amygdale cérébrale, qui gère la réaction. Et en faisant ce court-circuit, elle isole l'amygdale du reste du cerveau. Ce court-circuit est produit par le biais de sécrétion de certaines hormones qui sont des endorphines, essentiellement, et qui font que les victimes qui sont dans ce cas vont vous décrire « Ah, il y a un moment, je ne sentais plus rien. J'étais comme engourdi, anesthésié. J'avais l'impression de ne plus être dans mon corps. J'avais l'impression de voir la scène de l'extérieur. J'avais l'impression que les choses n'étaient pas réelles. Et ça permet de ne plus souffrir. Donc c'est un mécanisme de protection. Mais il est extrêmement coûteux. Pourquoi ? Parce que toutes les informations issues du traumatisme vont rester comme bloquées dans cette amygdale cérébrale. Et l'amygdale cérébrale, c'est très archaïque. Ça mémorise les choses de manière parcellaire. Un bruit, une image, une odeur. Et comme elle a été bloquée du reste du cerveau, elle ne peut pas faire transiter les informations vers une autre région du cerveau qu'on appelle l'hippocampe, qui, elle, nous permet de situer un événement dans l'espace, dans le temps, comme étant daté et passé. C'est ça qu'on appelle la mémoire traumatique. C'est cette mémoire coincée dans l'amygdale, qui peut rester coincée très longtemps, ce qui explique les phénomènes troublants d'amnésie traumatique, partielle ou totale, qui sont quand même extrêmement fréquents chez les victimes d'agressions sexuelles, enfants, d'accord, et qui peuvent ressurgir si un élément extérieur vient la stimuler parce qu'une odeur m'a rappelé le trauma et les flashbacks se déclenchent. Voilà, je suis un peu long peut-être.
Non.
Ça va. Bien.
Je dis non.
Donc, voilà pourquoi, une des raisons pour lesquelles les victimes peuvent oublier toute ou partie des événements traumatiques, et ça peut ressurgir bien après, et là encore, vous voyez que le droit tient, prend cela en compte, en étalant les délais de prescription. Mais elle s'associe à ça deux phénomènes qui ne favorisent pas chez la victime la révélation du fait, cette fameuse culpabilité dont je vous parlais. J'aurais dû me défendre, j'aurais dû faire ceci, faire cela, je suis responsable. Sans compter que souvent, ceci est renforcé par l'attitude de l'agresseur qui finit par en convaincre la victime. D'accord ? Et sans compter un autre phénomène qui n'est pas très politiquement correct, mais dont il faut aussi parler. Que les victimes de viol ressentent énormément de honte, c'est que le viol a beau être quelque chose d'horrible, comme il y a une stimulation sexuelle, et bien le corps peut réagir à la stimulation, et malgré l'horreur que l'on vit, la victime peut éprouver certaines sensations de plaisir, et pour elle, c'est une honte absolue, et ça favorise le fait qu'elle ne puisse pas en parler. Mémoire traumatique, honte, pression de l'agresseur et culpabilité sont les ingrédients qui font que c'est difficile, très difficile pour les victimes de parler, sans compter qu'on a perdu les repères relationnels, qu'on ne sait plus trop à qui faire confiance ou pas. Alors, chez l'interlocuteur, quand on reçoit la parole d'une victime qui nous dit qu'elle a vécu ces actes-là, bien évidemment, ça peut déclencher tout un tas d'émotions absolument bouleversantes qui peut passer par de l'assidération, de la peur, de la colère, mais en tout cas toujours de la confusion. D'autant plus quand on connaît soi-même l'agresseur et que cet agresseur, a priori, n'avait absolument pas le profil d'un agresseur. Alors, face à cette réaction, et on peut être soi-même, souvenez-vous du deuxième critère, on peut soi-même être traumatisé d'apprendre qu'un de nos proches a vécu un traumatisme.
Bien sûr.
Donc on peut soi-même être traumatisé. Donc un peu d'indulgence avec nos propres réactions, qui sont émotionnelles et très fortes dans ces cas-là, c'est normal. Ce dont il faut se méfier, c'est que face à cette réaction-là, on peut mettre en place des mécanismes de défense pour se protéger face à l'horreur et l'insoutenable. Mais ces mécanismes de défense peuvent avoir des conséquences extrêmement délétères chez les victimes si on n'y prend pas garde, si on se laisse emporter par elles. Alors, quels sont les mécanismes de défense les plus fréquents ? Le déni. Non, c'est pas vrai. Tu mens. Tu as inventé tout ça. Tu t'es fait des idées. Phénomène majoré quand on connaît l'agresseur et que cet agresseur, qui est porteur de valeurs, de bienveillance supposée et qu'il avait toute notre confiance. Autre phénomène, la minimisation ou la banalisation. Oh, mais tu as mal interprété, c'est pas grave, il t'a juste un peu touché, bon, t'en es pas mort. Ou alors on rationalise, on veut comprendre. On veut comprendre et on se met à enquêter. Où, quand, comment, on cherche les faits. Sauf que là, ça c'est le travail des policiers et qu'il ne faut absolument pas pousser une victime à raconter plus que ce qu'elle veut bien nous dire. On peut aussi accuser la victime, qu'as-tu fait pour le provoquer ? Et on peut ressentir bien sûr de la colère, de la haine à l'égard de l'agresseur. On peut être effondré émotionnellement, ou on peut être simplement touché, ému, et là aussi on a envie d'aider, et c'est très bien, mais partons du principe que là, dans ce contexte-là, on n'est pas psychologue, ni psychothérapeute, ni psychiatre. Alors que faire ? La première chose à faire, c'est d'écouter, de faire effort pour convoquer notre bienveillance, notre humanité, ne pas juger et accueillir la parole de la victime et simplement valider son état émotionnel avec empathie. Et de voir quel peut être ensuite le plan d'action sans se substituer ni à un enquêteur, ni un soignant, et surtout ne jamais rester seul face à ce type de révélation. Savoir se faire soi-même aider. Et il n'y a pas de raison de ne pas croire ce qu'une victime nous dit. Les études montrent que il y a, certes, il existe des fausses allégations mais c'est quand même assez rare. Et ce sera à la police et la justice de trancher sur cette question-là. Aucunement à nous. Nous, on peut tendre la main, amener la victime vers le juridique, vers le soin psychique, d'accord ? Parce qu'il ne faut pas croire qu'une simple révélation va avoir un effet cathartique et thérapeutique. Non, c'est trop grave, la parole libère, mais on ne peut pas se contenter de cela. Et témoigner devant tout le monde peut avoir une vertu thérapeutique, mais ne se substitue pas à une psychothérapie au long cours. Et il convient de passer la main à des professionnels. On a aujourd'hui, et c'est tant mieux, tout un tas de ressources, de numéros verts, d'appels pour recevoir de l'aide, parce que c'est normal d'être bouleversé aussi quand on apprend ce genre de choses et de perdre nos moyens. Donc faisons au plus simple et passons la main aux personnes compétentes pour intervenir au plan policier, juridique et du soin. Merci.
Merci Damien.
Prenez la main.
Oui. Alors vous voyez combien il est nécessaire de s'ancrer, de se saugler dans le réel de la mémoire traumatique, dans le réel juridique, de la juridicisation de ces problèmes, et combien pourrait, à contrario, être délétère les bonnes volontés, les bonnes réactions que nous avons connues. Je reviens donc à notre écosystème catholique, puisque nous sommes ici aussi en contexte catholique pour positionner aussi toutes ces réceptions de nouvelles accablantes, monstrueuses, surdimensionnées du chiffre des victimes au sein de l'Église catholique. Et quand on dit au sein de l'Église catholique, ça veut dire aussi au sein de la société. Et tout à côté de nous, tout près de nous, ou dans nos familles, chez nous. Merci à Benjamin et Damien, les intervenants amis. N'hésitez pas à nous poser des questions, quelles qu'elles puissent être, pour que nous puissions vous éclairer un peu plus. Je vous redis donc notre volonté pour répondre à la demande de votre père curé, était de un petit peu à contrario de ce qui s'est fait. Je vais le baisser, oui, pardon. Un petit peu à contrario de ce qui s'est fait dans l'Église catholique, étant sauve, la commission sauvée, d'avoir d'abord une culture d'intervention engourdie par la psychanalyse. Engourdi par aussi un des grands chantres du conseil en psychiatrie sociale et psychanalyse que fut de triste mémoire récente Mgr Tony Anatrella. L'air de rien, tout ça a engourdi dramatiquement la réaction de nos évêques en France. Je ne fais pas de procès de personne, c'est factuel. Mais ça a permis une doxa délétère, des positionnements qui détricotent ce qu'il est nécessaire de savoir et d'entendre, comme vous venez de l'entendre ce soir. Là, ce sont des compétences au service de la personne, sans posture, simplement au service de l'humain. Aussi bien le droit que les sciences cliniques. Nous avons réellement, nous devons faire ce constat qu'il nous faut augmenter, non pas l'hypervigilance qui serait, mais quoique, hein, elle est vicariante, l'hypervigilance aussi pour nous chrétiens qui baignons dans ces récits, une vigilance aiguë pour ne pas recevoir n'importe quelle information distillée, retraitée, qui comme, alors j'ai amené d'une manière un peu provocatrice, mais la plaquette de l'Église catholique de lutte contre la pédophilie, la dernière plaquette du 25 mars, comment ?
Elle est là.
Vous l'avez. Du 25 mars 2021. qui a été faite sous l'égide de la Conférence des évêques de France. Là aussi, nonobstant le grand respect que je dois à Mgr Éric de Moulin-Beaufort, qui m'a appelé à ses côtés de 2015 à 2018 jusqu'à la commission Sauvé, avec un ancien bâtonnier, prêtre, nous avons un petit peu mouliné beaucoup de choses. Néanmoins, cette plaquette, qui n'est pas du Père Éric de Moulin-Beaufort, mais qui est un ensemble d'efforts, est un peu tiède par rapport à ce que vous la relirez, ce que nous venons d'entendre. Voyez-vous, par exemple, ce que nous, fidèles, pouvons faire, se laisser interpeller, soutenir les personnes, en parler, s'informer, ça c'est ce que nous faisons, cochant la case, être attentifs les uns aux autres, alertés, reconnaissance et prière, justice, prévention, soutien, soit. Mais soclons-nous d'abord dans une préhension extrêmement crue, réaliste, factuelle, pour ne pas être pris nous-mêmes dans les raies des biais, dans les biais défensifs face à ces situations. Et j'aimerais demander à Damien Fouque s'il peut nous parler, aussi nous éclairer sur une question qui est ce qu'on a entendu à l'envi, c'est un problème systémique. Comment vous nous diriez quelques mots sur cette problématique au sein de l'Église, c'est un problème systémique, le problème des agressions sexuelles.
Je vais essayer de répondre à une question, Martine. Alors, en psychologie, quand on utilise le terme systémique, ça fait appel à tout un champ sémantique qui est celui donc des modèles systémiques qui a donné, par exemple, les thérapies familiales.
Oui.
Ce champ emprunte à la biologie et aux mathématiques, ce modèle des systèmes, qui considère effectivement que tout groupe humain est constitué et forme un système, que ce système a des propriétés. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails du fonctionnement des systèmes selon ces théories, mais une des grandes avancées qui a été la thérapie systémique, qui a ses implications dès qu'un membre d'une famille est perturbé au plan psychologique et que cette répercussion a des incidences au niveau de la famille. Je pense par exemple aux familles où un membre est atteint de schizophrénie ou d'anorexie mentale, c'est là que les thérapies systémiques se sont le plus développées. Le gros intérêt de ce modèle, c'est de comprendre les difficultés non pas comme reposant sur un individu, mais étant prise dans un jeu, effectivement, de communication dysfonctionnelle dans une structure de système. Donc ce qui avait là une vertu énormément déculpabilisante, parce qu'avec ce modèle-là, ce n'est pas un individu qui est malade, il n'y a pas une cause qui génère une conséquence, c'est un ensemble de relations, était très bénéfique dans ce contexte-là. Mais dans le contexte présent, je me demande dans quelle mesure cette vision-là ne sert pas pour le coup à diminuer,
à lisser les choses.
À diminuer les responsabilités. Voilà. Dire finalement, c'est un peu de la faute de tout le monde, donc c'est de la faute de personne, c'est un système. Oui. C'est peut-être un effet pervers ou un écueil dans lequel il ne faudrait pas tomber.
En tout cas, ça témoigne. Merci beaucoup, Damien. C'est une alerte que je voulais souligner parce que à trop avoir des punchlines, vous voyez, des formules qui nous servent, bon, c'est systémique, très bien, voilà. On ne va pas se sentir concerné par un problème systémique. On va avoir cette étiquette, et bien légitimement, parce qu'on est ainsi fait, nous sommes de drôles de bestioles, on va mettre à distance les choses. La gravité de ce sujet qui traverse l'humanité, la gravité des violences sexuelles nécessite aujourd'hui, et ça c'est bonne nouvelle aussi, c'est une grande dignité, nécessite que l'on relève la tête, qu'on n'ait pas peur, comme disait le Saint-Père Jean-Paul II, qu'on relève la tête, qu'on s'arme de ces choses factuelles, crues, mais certaines, pour avoir des ajustements au plus près de notre prochain, au plus près des personnes. Alors ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et autre très bonne nouvelle, les sciences psychologiques, sciences humaines, ne cessent de progresser. Voulez-vous, par exemple, nous dire aussi, Damien, quelques techniques thérapeutiques qui peuvent être utiles.
Vous faites travailler, Martine, ce soir.
J'en profite. J'en profite. Après, j'ai des questions pour Benjamin, personnellement.
Alors, en matière de psychothérapie, effectivement, comme l'a souligné Martine, les choses évoluent très vite pendant des années. Nous avons un unique, quasiment unique modèle qui était le modèle psychanalytique. On le remercie. Il a été une grande aide.
Il a été fécond, oui.
Il est fécond, mais comme tout modèle, il a aussi ses limites, ses indications ou ses contre-indications. Et aujourd'hui, effectivement, le panel d'offres psychothérapeutiques s'est considérablement augmenté. Et nous bénéficions aujourd'hui de psychothérapie dont l'efficacité a été scientifiquement démontrée pour le traitement des syndromes psychotraumatiques. En tout cas, pour le SPT, pour le trauma complexe, on manque encore de données. Les choses sont prometteuses. Donc, classiquement, il y a deux grandes psychothérapies qui sont reconnues au plan international comme étant efficaces pour le trauma. C'est la thérapie comportementale et cognitive et la thérapie EMDR. Voilà, alors après, je ne sais pas s'il faut que j'entre dans les détails. Il en existe bien d'autres, mais elles ne sont pas développées en France. Il y en a aussi de nouvelles, émergentes, prometteuses, qui sont à l'étude. Mais c'est vrai qu'en France, la culture de l'évaluation de la psychothérapie n'est pas la même que dans les pays anglo-saxons, par exemple. Mais voilà, en tout cas, les choses sont en train d'évoluer. Moi, ce qui me semble important, c'est qu'on ouvre le panel d'outils spécifiques pour qu'on puisse réfléchir pour telle victime, telle patient à tel moment donné, quelle est l'approche thérapeutique, psychanalyste, TCC, EMDR ou autre, qui va être le plus à même de l'aider à ce moment-là.
Merci Damien. Avez-vous des questions ?
Est-ce que ce sont des techniques qui permettent de guérir ou simplement de soulager ?
Alors, guérir, la guérison n'est malheureusement pas absolue, mais il y a des gens qui vont effectivement se remettre complètement d'un traumatisme. Une chose que je n'ai pas non plus du tout évoquée et qu'il est important de le faire, c'est qu'on a beaucoup entendu parler en France de la notion de résilience, popularisée par Boris Cyrulnik, qui a été extrêmement intéressante. Il y a une autre notion aujourd'hui qui est peut-être complémentaire ou un petit peu différente, qu'on appelle la croissance post-traumatique, très étudiée à l'international, la post-traumatic growth, qui dit qu'après un événement particulièrement aversif, pas forcément un traumatisme au sens strict, l'individu, à côté de toute la détresse qu'il peut ressentir, va aussi voir sa vie profondément changer et être remanié vers quelque chose de bon, de meilleur pour lui en termes de valeur, de spiritualité, de positionnement dans les relations. Donc ça, je trouve que c'est aussi très optimiste d'avoir ça en tête. Alors, évidemment, toute thérapeutique du trauma, il n'est pas du tout question d'oublier le trauma. Mais on peut considérablement réduire les symptômes psychotraumatiques dont je vous parlais tout à l'heure, et dans le meilleur des cas, avoir une absence de symptômes psychotraumatiques après la thérapie. Maintenant, dans les traumas complexes, je ne vous cache pas que la route est longue et que l'accompagnement psychothérapeutique se compte plutôt en années, d'accord ? Avec typiquement un traitement dit en trois phases. Première phase de stabilisation, où on essaie d'armer la personne, justement à mieux réguler ses émotions, à mieux s'ajuster dans les relations, consolider ses ressources, pour qu'ensuite on puisse traiter ses mémoires traumatiques dysfonctionnelles. Ça, c'est une phase relativement éprouvante de la thérapie. C'est une des limites de ces psychothérapies, mais certaines sont quand même moins confrontantes que d'autres. Et enfin, une troisième phase qui est, ben voilà, maintenant que je suis débarrassé entre guillemets de mes symptômes, alors que ça fait 10, 15, 20 ans que je vis avec, comment me réajuster dans cette nouvelle vie ? Comment intégrer tous ces changements et reprendre mon chemin ? Voilà. Mais les résultats sont tout à fait satisfaisants, prometteurs, encourageants, mais on peut toujours progresser et il faut continuer de progresser. La recherche sur la psychothérapie est très peu développée en France. Il y a un gros problème de coûts, de sous et de fonds pour conduire ce genre de recherche.
Merci beaucoup Damien, parce que cette notion de croissance post-traumatique est emplie d'espérance. C'est vraiment une très belle notion, ça, par rapport à la résilience qui commençait à...
Ben, oui, parce que résilience, c'est l'idée d'un retour, c'est un terme qui vient de la physique, des matériaux, qui est l'idée d'un retour à l'état antérieur.
Presque un retour ad integrum avec justement le rêve de la guérison. Mais non, voilà. C'est croissance, élargissement. Finalement, une blessure élargie et grandie, mais sans enjoliver quoi que ce soit.
Alors, on peut revenir à un état antérieur du point de vue de l'absence de symptômes, sauf que le bouleversement qui a été le traumatisme fait qu'on n'est jamais exactement comme on l'était avant. Mais qu'être différent, ça peut être différent vers un mieux. Oui. Alors, il y a quelques travaux qui mettent en garde sur, justement, en revanche, le côté presque d'injonction que peut avoir cette croissance post-traumatique, et qui peut mettre de la pression chez les victimes. Tiens, moi, j'ai pas de croissance, je vais mal, point, je vais mal. Et il faut pas que ça devienne un diktat de, après un trauma, forcément, on va croître.
Ah non, bien sûr.
On va aussi en baver, et ce chemin est possible, mais voilà. Donc c'est une piste aussi engageante, mais qui n'est malheureusement pas systématique, et il ne faut pas que ça devienne une espèce d'injonction à aller mieux quand on est empêtré dans ces troubles, ces difficultés et ces symptômes. Donc un peu de nuance là-dessus me paraît important.
Bien sûr. Et merci de nous avoir apporté cette précision aussi, cette notion de valider l'état émotionnel des personnes que l'on peut entendre et valider pas à pas, mais ne pas avoir justement ni d'injonction, ni de présupposé, ni essayer de ne pas avoir de projection sur l'état émotionnel que l'on souhaite rencontrer chez l'autre. C'est pour ça qu'on peut toujours craindre qu'il y ait des dérapages, des intrusions quand on fait des grandes mises en scène des victimes, hein, comme ce fut fait à Lourdes. Les personnes étaient, semble-t-il, consentantes. Personnellement, je pense que vous aussi, Damien, personnellement, je crains pour ces personnes, parce que portées par l'effusion d'un groupe, ça met quand même en danger. Il faut toujours beaucoup de délicatesse. Le Christ le montre, hein. Il faut toujours du tact, continuellement.
Une chose est sûre, raconter un traumatisme pour raconter un traumatisme n'a pas en soi de vertu thérapeutique. Au contraire, peut avoir un effet retraumatisant. Il va y avoir un temps de la thérapie où il sera donc le moment de faire ce travail qui passera probablement par un récit. Et encore, ce n'est pas systématique, mais dans un cadre donné, à un moment donné, qui sera opportun. Et uniquement raconter le traumatisme n'a pas en soi de vertu thérapeutique. Ça peut avoir la vertu de déclencher chez l'autre de l'empathie. Et on sait que de recevoir un soutien social dans ces cas-là, c'est notre terme un peu technique, mais voilà, d'avoir des proches autour de nous qui s'enquièrent de comment on va et qui prennent soin de nous, est un gros facteur de protection et d'évolution favorable de tous ces symptômes-là. Donc de ce point de vue-là, c'est bien, mais on laisse la victime dire ce qu'elle a envie de dire sans chercher plus loin et sans forçage aucun.
On a en tête des exemples de croissance post-traumatique dans des victimes de camps de concentration.
Oui.
Il y a eu beaucoup d'exemples, on l'imagine bien. Mais dans le cas d'agression sexuelle, on l'imagine plus difficilement. Vous pensez que ça peut... C'est un phénomène qui existe également dans ce cas-là.
Oui, je l'ai observé chez certaines... J'ai des patientes en tête qui, effectivement, alors encore une fois, ça ne retire rien à l'horreur et à la souffrance que cela a été, mais du coup, la vie se réorganise, les priorités changent, et on peut du coup avoir une orientation de valeurs différente, plus centrée sur le vrai, sur autrui, moins de fioritures, aller à l'essentiel. Je pense à des gens qui peuvent se mettre à avoir une attitude militante, par exemple, dans la protection de l'enfance ou que sais-je. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, on peut observer ça. Mais c'est vrai que ça nécessite d'abord d'avoir réparé quelque chose de l'ordre de la confiance en l'humain qui va être perdu. Et de mon expérience de thérapeute, c'est aussi justement dans l'expérience d'une relation thérapeutique fiable et soutenante que quelque chose de cette confiance va se rejouer, en plus bien sûr de l'attitude bienveillante des personnes proches de la personne victime, qui vont petit à petit l'aider à reprendre confiance et se réajuster. Mais encore une fois, c'est pas systématique, hein. Toute victime de traumatisme va pas développer des valeurs très très différentes, mais c'est très étudié à l'heure actuelle et on commence à étudier ça en France.
Merci beaucoup, Damien.
Je me permets une question. Est-ce que véracité statistique du rapport Sauvé.
Sur ce sujet, je suis moi-même un petit peu en vrac. Parce que j'ai pris... Monsieur me demande ce que nous pouvons penser et ce que je pense de la polémique qu'il y a eu de la part de l'Académie des sciences catholiques, de certains membres, tous les membres qui se sont positionnés, je les aime beaucoup. Alors j'étais très attentive à ce qu'ils pouvaient dire, notamment Pierre Manon, que je vénère, parce que j'ai assisté à ses séminaires et c'est une personne vraiment d'une grande probité intellectuelle, versus les chiffres et la méthodologie de la science. Alors, je ne suis pas une... Comment dirais-je ? Je ne suis pas une spécialiste des recherches statistiques. La commission Sauvé a demandé un boulot à l'INSERM qui a donné des résultats. Moi, j'ai pris ma calculette sur mon portable et j'ai essayé de trouver un ratio. Je suis arrivée à, selon les chiffres que je ne pourrais pas vous dire de mémoire parce que je suis assez nulle en chiffres, néanmoins, je me souviens de mon résultat de calcul. Ça correspondait depuis les années de travail, de recherche, depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, ça correspondait à peu près à 457 victimes par an d'abus et d'agressions, d'atteintes sexuelles, jusqu'à aujourd'hui. Alors, ça m'a semblé énorme, pour tout dire, ça m'a semblé quand même assez colossal. Chaque jour, un peu plus de chaque jour, un enfant serait victime d'un membre de l'Église, laïque, prêtre, enfin, tous les cas de figure. Ça m'a semblé énorme jusqu'à aujourd'hui, mais mon seul petit focus, c'était l'observation pendant presque 5 ans des dossiers dans notre diocèse. Nous avons dépouillé... les dossiers qui étaient en jachère ou des dossiers où il était difficile d'en faire la lecture, etc. Il fallait relire tout ça, beaucoup de dossiers, et voir s'il fallait faire un signalement. En fait, les chiffres dans notre diocèse n'étaient pas phénoménaux, mais le premier chiffre, le seul chiffre, et on le sait, est de trop. Alors, je ne sais pas. Il y a aussi mon professeur de droit canonique, Monsieur Sauvé, qui m'a dit que... pas Sauvé, je vais mettre un autre nom. Olivier Échappé, qui fut d'ailleurs qui est un éminent constitutionnaliste aussi, m'a dit qu'il trouvait ses calculs, il en avait discuté avec Monsieur Sauvé, que la méthodologie n'était pas bonne. Je ne pourrais pas vous restituer les chemins méthodologiques. Ce que je crois, c'est que les personnes ce que je vois, c'est que les personnes ont réagi de part et d'autre, ont surréagi. L'Académie catholique a surréagi. C'était inconvenant au mépris de l'ensemble de l'Église catholique que nous formons, peut-être, au mépris sans que ce soit une intentionnalité, mais de faire une remarque extrêmement critique et documentée, mais avec ce petit air de si connu dans notre Église catholique, d'un surplomb, d'un aplomb, alors que la commission Sauvé ouvre, si vous voulez, à une collégialité, à une horizontalité retrouvée, à des forces communes que l'on doit partager. Alors là, tout soudain, un comité d'experts improvisé, parce que nul n'est statisticien dans le groupe des académiciens, ils ont demandé à des personnes compétentes de corriger ces informations sur la méthodologie employée. Bon, il faut reconnaître que l'effort de la commission Sauvé est un effort d'ampleur et une demande magnifique. Il ne peut que s'être glissé des problèmes méthodologiques, parce que tout cela est très rapide, que lorsqu'on visite, pour parler crûment aussi, enfin tout au moins très factuellement, quand on va dans les diocèses, tous les diocèses n'ont pas été visités. Quand on va dans les diocèses, quand on va voir du côté des officialités, selon la sinistre formule de Mgr Piquant à Bayeux, bien des choses ont été malgré tout traitées comme cela, à la verticale, et mis dans les poubelles. Lorsque vous savez que dans les officialités, je vais un peu dans des propos un peu scandaleux, mais dans les officialités, souvent, on a nommé des personnes, des prêtres, qui étaient en grande difficulté. Que peut faire un prêtre normalement constitué, enfin, singulièrement constitué, qui a eu des problèmes avec la justice, qui se retrouve à l'officialité, de deux choses l'une, ou se retrouve aux archives diocésaines, que peut-il faire? Soit il jette le dossier de ses amis, qu'il n'ignorait pas, dans la même problématique sexuelle, pédophilique, ou tout simplement de difficulté à gérer sa vie sexuelle ou sa continence, soit il va dénoncer des personnes. Donc ça c'est le réel un peu sombre, hein, les arrière-coulisses de ces données méthodologiques. Bon, fermons la parenthèse. Donc pour en résumer, pour répondre à votre question, je crois qu'il faut être attentif néanmoins à ce qu'a dit l'Académie catholique, mais savoir qu'il y a aussi des conflits de personnes qui sont aussi des conflits parfois d'égo. Mais en ce qui concerne M. Pierre Manant, sa sincérité, elle est totalement intègre. Pour le père Armogat, de la même façon, je n'en doute pas. Tous ces sujets sont extrêmement clivants, fracturants, nous intrusent, nous décalent, nous déportent. Soit on résiste et on se met à la marge de tout cela, et on dit c'est presque fini. Moi j'ai des amis très bonnes paroissiennes dans ma paroisse de Saint-Louis en Lille, me disant « Mais enfin Martine, c'est déjà fini, mais ça fait 5-6 ans qu'elle me dit cela, il n'existe plus aucun problème. » Bon, non. Soyons dans le réel avec nos moyens, faisons tout notre possible et pas l'impossible qui n'est jamais productif. Comme ce soir, je voudrais vraiment remercier le père Potet. Je n'ai pas d'hypothèse. Je vous remercie beaucoup de m'avoir permis d'inviter mes amis et qu'ils puissent faire ces interventions, ces deux interventions d'une brillante clarté. J'espère que ces interventions vous auront été utiles. C'était mon souhait le plus cher et notre souhait le plus désiré. Merci beaucoup à vous tous.
Je voulais vraiment vous remercier profondément pour la réponse que vous avez donnée à nos attentes. Je pense que l'ensemble des quatre conférences cohérence. Merci beaucoup. J'ai trouvé ce soir beaucoup de choses factuelles et très précises. Et ça, c'est quelque chose qui pour nous est très important, je crois, aussi bien au point de vue juridique, et, même si c'était un petit peu dur peut-être pour certaines personnes, mais c'est cru, mais c'est nécessaire.
C'est nécessaire.
Et au point de vue clinique et psychologique, merci infiniment et votre voix autorisée pour votre collaboration auprès des évêques et de Mgr Manant. Je pense que c'était très très intéressant pour tout le monde. Grand, grand merci.
Merci à vous, Père. Merci à vous tous, à chacun de vous.
Vous tournez vers la Vierge Marie pour
la chance. Bien sûr.
Descendu vous et tous les vôtres, et il demeure à jamais. Amen.